Mes frères bien-aimés, je crois que nous pouvons l'affirmer sans sourciller, le Christ avait une myriade d'admirateurs. Nous le voyons dans l'évangile du jour, où des milliers de personnes partent à sa recherche, car il leur a échappé des mains. Mais ce que nous pouvons affirmer également sans sourciller, c'est que ses admirateurs étaient des durs à cuire. Ils viennent d'assister à un miracle encore jamais vu sur terre, la multiplication des pains, à travers laquelle 5 pauvres miches nourrissent 15 000 bouches. À la suite de ce prodige, ils ont tous certifié la bouche en cœur, c'est vraiment lui le Messie annoncé, celui qui vient dans le monde. Et voilà que quelques heures plus tard, le lendemain, alors que Jésus leur révèle que pour travailler à l'œuvre de Dieu, il suffit de croire en celui qu'il a envoyé, c'est-à-dire en Jésus lui-même, ils ont le toupet de répondre, là encore la bouche en cœur, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions te croire ?» Frères bien-aimés, nous avons là la preuve par 9 qu'il n'y aura jamais assez de raisons pour croire. Même face au surnaturel le plus évident, un homme pourra toujours dire « oui, mais » et botter la foi en touche. Et dans l'évangile du jour, ce sont des milliers de personnes qui agissent ainsi. Pour autant, nous n'allons pas fustiger ces disciples en herbe, car il nous arrive d'adopter la même attitude qu'eux. Mais il nous revient tout de même de dénoncer l'erreur qu'ils font. Et cette erreur, elle est toute simple, elle consiste à concevoir la foi comme la conséquence d'une certitude intellectuelle. Je suis absolument sûr de quelque chose, donc je crois en ce quelque chose. Pour croire en une réalité, il faudrait d'abord avoir parfaitement saisi cette réalité d'un point de vue rationnel. En un mot, il faudrait comprendre dans un premier temps pour croire dans un second temps. Et il serait inconvenant de croire en quelque chose qu'on ne comprendrait pas à 100%. En fait, si nous attendons d'être certains pour croire, nous ne croirons jamais. Et cela est vrai dans tous les domaines de la vie. Prenons un exemple tout simple. Une femme, nommons-la Marguerite, rencontre un homme et le trouve sympathique. Aussi, avant de le quitter, elle lui demande gentiment son prénom. L'homme répond avec joie, « Je m'appelle... » Il défonce. Mes frères, je vous rassure, c'est un nom qui existe, et Saint Ildefonse de Séville existe bien. Marguerite ne laisse rien transparaître, mais intérieurement elle se dit « c'est pas possible ». Comment des parents peuvent-ils donner un tel prénom à leur enfant? Je ne veux même pas imaginer les moqueries qu'il a dû essuyer dans la cour de récré. Et puis une idée lui traverse la tête. Ce petit coquin me joue sûrement un tour. Elle lui demande alors sa carte d'identité. Un peu gêné, mais épris de sa beauté, monsieur s'exécute. Et effectivement, sa carte d'identité est bien au nom d'Ildefonse. Pourtant, un doute demeure chez Marguerite. Elle voudrait bien rencontrer les parents d'Ildefonse pour voir si ce dernier n'a pas falsifié ses papiers. Mais ils sont décédés l'année dernière dans un crash d'avion. Elle décide alors de se rendre à l'état civil, invente une histoire rocambolesque auprès de l'employé de l'accueil et obtient par là de vérifier l'existence de ce fameux Ildefonse. Après quelques recherches, l'employé confirme la chose. Mais notre petite détective en herbe n'y croit pas. Elle doit être complice, elle aussi. Par conséquent, elle exige de voir l'écran d'ordinateur afin de vérifier par ses propres yeux. Elle ne peut que se rendre à l'évidence, Ildefonse existe bien. Mais, réfléchit-elle, Ildefonse connaît peut-être celui qui a informatisé les cartes d'identité et il l'a peut-être mis dans le coup pour m'avoir. Enfin bref, frère bien-aimé, je ne vais pas continuer cette histoire qui pourrait durer des heures. Mais ce que nous devons retenir, c'est que notre brave Marguerite ne pourra jamais être certaine qu'Ildefonse s'appelle bien Ildefonse. Elle ne pourra jamais prouver par son intelligence et de manière infaillible que tout cela est vrai. Si plus tard, elle lui fera confiance sur ce point-là, c'est tout simplement parce qu'ils prendront plusieurs vers ensemble, qu'il lui portera à maintes reprises des bouquets, qu'ils se marieront et qu'aux enfants qu'ils obtiendront, il dira encore qu'il s'appelle Ildefonse. Voyez, mes frères, c'est l'amour que nous portons à un être qui fait naître en nous la confiance et qui nous fait alors croire en ses paroles. Ce n'est pas la raison qui suscite la foi, c'est le cœur. Considérer la foi comme un acte exclusif de l'intelligence revient à dire à notre Seigneur « J'ai écouté ce que tu m'as dit, j'ai tout vérifié par ma raison et puisque tout me paraît possible et cohérent, j'adhère à tes paroles. Encore une fois, dans ce cas de figure, nous ne croirons jamais, car une vie ne suffit pas pour vérifier toutes les paroles du Christ. Mais surtout, si nous concevons les choses de la sorte, le Dieu qu'il nous faudrait n'est pas une personne, mais un traité de théologie que nous pourrions parcourir du début jusqu'à la fin en suivant un raisonnement bien huilé. Or, la Trinité n'est pas un traité, ni même une personne d'ailleurs. Elle est une réalité composée de trois personnes. Pour entrer en relation avec elle, en un mot, pour croire, l'intelligence est donc insuffisante, puisque ce n'est pas l'intelligence qui unit des êtres, mais l'amour. Ce qu'il faut dire à notre doux Seigneur, c'est donc plutôt « J'ai écouté ce que tu m'as dit, mais surtout, je sais que tu m'aimes d'un amour fou. Je sais que tu ne veux que mon bien. Je sais que tu ne pourrais jamais me trahir. Aussi, j'adhère à tes paroles. » Si nous croyons, ce ne doit pas être d'abord parce que les propos qui nous sont tenus nous semblent cohérents. Bien évidemment, s'ils nous semblent complètement farfelus, balayons-les d'un revers de manche. Mais ce doit être d'abord parce que nous faisons confiance à la personne qui les exprime. Mes frères, la foi est d'abord une question d'amour, ensuite seulement une question d'intelligence. D'autant que notre intelligence n'est pas parfaite. Que voulez-vous ? Nous ne sommes pas des anges. Il nous arrive souvent de nous tromper. Pour le coup, il serait donc irrationnel de tout faire reposer sur notre compréhension des choses, puisque celle-ci est souvent erronée. Imaginons la scène suivante. Elle est ridicule, mais nous avons tous connu cela. Vous croyez mordicus que votre neveu Jean-Jérôme est né en 1998. Votre sœur, elle, soutient qu'il est né en 1999. Vous êtes autour d'un bon poulet et comme il se doit, vous vous échaudez l'un l'autre. Mais je te dis qu'il est né en 98. Je m'en rappelle comme si c'était hier, c'était l'année de la Coupe du Monde. Vous êtes alors prêt à parier votre voiture que le neveu est né en 98 et pas en 99. La tension monte jusqu'au dessert, le conflit est à son comble et vous décidez alors de le régler en appelant le fameux neveu. Pourvu qu'il réponde. Ouf, il répond. Mais il donne malheureusement raison à votre sœur. Heureusement, cette dernière n'est pas rancunière et n'emporte pas votre voiture en partant. Mes frères, nous nous méprenons si facilement sur des petites choses. Nous sommes si souvent convaincus de vérités complètement fausses. Pour les grandes vérités, ne nous basons donc pas seulement sur ce que notre raison peut emmagasiner. Surtout que ce serait là vouloir réduire la foi à notre dimension humaine. Et cela, je vous le déconseille formellement, parce que si tout est restreint au seul horizon humain, si l'homme est la mesure de la foi, alors il n'y a vraiment rien à en attendre. Et oui, puisque l'homme est mortel, si la foi ne surpasse pas l'homme, elle ne promet rien d'autre que la mort à la fin du parcours. Et si c'est ça, moi je passe. Mais non, frère bien-aimé, la foi dépasse largement notre petitesse et renferme des réalités merveilleuses, mais qui sont appelées à être pleinement vécues et comprises au ciel seulement. Sur la terre, nous sommes encore et uniquement dans l'avant-goût. Nous ne pouvons donc pas tout saisir. Flannery O'Connor, un écrivain américain mort en 1964, à l'âge de 39 ans, des suites d'une maladie incurable, explique parfaitement cette affaire dans une lettre adressée à une amie dont la foi est aux prises avec de fortes tentations. « Moi aussi, commence-t-elle pour assurer son amie, j'ai connu ce genre de souffrance. Mais c'est là notre condition terrestre. Quand l'ordre et la paix régneront dans notre demeure spirituelle, nous serons mortes. En attendant, il faut continuer. Et on acquiert assez de conviction pour être de force à poursuivre son chemin. Mais ici-bas, on marche dans le noir. Ne comptez pas sur la foi pour vous éclairer la route. Elle signifie confiance, non pas certitude. » Mes frères, notre drame est que nous voulons toujours comprendre et ensuite faire confiance. Mais vous le savez aussi bien que moi, ce n'est pas ainsi que nous apprenons à vivre. Regardez les enfants, comment grandissent-ils ? En faisant confiance et en ne comprenant que par après. Si le petit enfant ne met pas la main sur la plaque chaude, c'est seulement parce que sa maman, qu'il aime de tout son cœur, le lui interdit formellement. Ce n'est que plus tard, après bien des années, lorsqu'il sera ingénieur en physique, qu'il pourra comprendre tous les mécanismes qui permettent d'arriver à une plaque chauffante. Voyez, il a fait confiance et a compris par la suite. Bien lui en a pris d'ailleurs, sinon il n'aurait plus aucune main pour étudier sa physique. Allez, frère bien-aimé, à notre tour, faisons confiance à notre bon Père du ciel, même si nous ne comprenons pas tout ce qu'il nous a révélé. Soyons rassurés, son Fils n'est pas venu sur terre pour nous berner. S'il avait voulu faire cela, il serait tranquillement resté au ciel et il aurait déréglé les lois de notre univers pour nous faire tourner la tête. Mais non, il est descendu sur terre par amour pour nous. Mes frères, Dieu nous aime depuis toute éternité et il nous aime pour toute éternité. Croyons donc en chacune de ces paroles qui sont contenues dans le Saint-Évangile et qui ont été prononcées par amour. Le Père les a pensées, le Fils les a exprimées, le Saint-Esprit nous les rappelle. Il serait indécent de se méfier, n'est-ce pas? Aussi, dès le matin en nous levant, disons à la Trinité, « Je suis sûr que vous m'aimez, donc je fais totalement confiance en votre agir et en votre parler. » Et alors, le soir, lorsque nous nous coucherons, notre Père du ciel viendra s'asseoir à côté de notre oreiller. Il approchera son visage du nôtre, prendra notre tête dans ses deux mains et tout en la caressant, nous dira les yeux embués de larmes à cause des millions d'êtres qui le rejettent, « Merci de travailler à mes œuvres. Merci de croire en mon amour et en mes paroles. Amen. »